Bonjour à tous, nous vous proposons une émission spéciale en deux parties aujourd'hui et demain en lieu et place du journal régional. Nous recevons François Malabave et Patrice Favaro. Bonjour.
Bonjour Evan, bonjour à tous. Effectivement, c'est une émission très particulière et en fait, c'est deux émissions très particulières qu'on va vous proposer en lieu et place de notre journal aujourd'hui et demain. Et c'est à propos d'un atelier d'écriture très particulier que nous avons fait avec des élèves du Carrefour de Moyenne Durance avec l'auteur jeunesse Patrice Favaro qui effectivement, comme vous l'avez dit, Evan nous a rejoint. Bonjour Patrice.
Bonjour François, bonjour tout le monde.
Nous connaissons depuis fort longtemps et nous avons travaillé sur ce projet, un projet qui a été initié par la médiathèque Louis-Joseph à Château-Arnoux-Saint-Auban à partir de deux de vos livres, des livres jeunesse qui ont été choisis par les scolaires, par les classes, puis interpréter, travailler en classe, en lecture, nous allons y revenir avec vous, puis ensuite enregistrer pour pouvoir être diffusé à la radio, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En fait, c'est l'aboutissement du travail aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ou plutôt sur l'oreille, parce que c'est l'aboutissement d'un travail qui a été mené depuis, une réflexion d'abord qui a été menée depuis la fin 2016, qui consistait à essayer de voir comment on pouvait amener les enfants à une autre pratique de la lecture. Et cette idée a germé avec Katia Veillant et Suzelle Badet de la médiathèque, de façon à essayer de monter un projet qui donnerait une lecture approfondie du texte. Et c'est à ce moment-là que nous avons songé aussi à la diffusion de la radio, parce que moi je suis très sensible à ce que j'écoutais quand j'étais enfant et adolescent, les pièces radiophoniques qui me faisaient rêver, parce que justement il n'y avait pas d'image, il n'y avait que le texte, et c'est le texte qui donnait à rêver. Alors on a monté ça comme ça avec un certain nombre de partenaires, et aujourd'hui c'est la concrétisation de tout ce travail.
On va écouter peut-être le premier extrait. Et puis on se retrouve tout de suite après, Patrice, pour en parler. Et puis vous nous donnerez votre avis sur le travail des jeunes qui ont été réalisés. Je vous propose d'écouter les élèves de l'école Paul Lapi à Saint-Auban et qui lisent un ouvrage de votre cru, Patrice Favaro. Ça s'appelle Les oreilles de Sigismond. Et vous verrez que chacun connaît ce beau Sigismond.
D'immenses oreilles. Pourquoi ? Épais mystère. Celles de ses parents sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Du côté de ses sept frères et sœurs, aucun n'en a de semblable. Une terrible injustice. Il est le seul à être né avec deux belles feuilles de chou. Quand Sigismond se regarde dans une glace, il les juge.
Grotesque, gigantesque, en un mot comme en mille, abracadabrantesque.
Il sait bien que tous ceux qui les aperçoivent pour la première fois ont un avis identique au sien. La preuve, quel que soit l'endroit où il se trouve, chez lui, à l'école, au jardin public, dans la rue, il y a toujours quelqu'un pour se moquer de cette maudite paire d'oreilles qui ne parvient même pas à cacher sous une casquette. On lui dit des choses comme ça.
« Avec tes nageoires, tu dois être un champion de natation. »«
De quelle planète venez-vous, monsieur l'extraterrestre ?»
Et que verse-t-on dans ces deux grands entonnoirs ?
Ses oreilles, Sigismond, aimerait bien les échanger.
Oui, mais qui en voudrait ?
S'il pouvait rencontrer quelqu'un comme lui, il se sentirait moins isolé.
Mais est-ce qu'il existe seulement une personne dans le monde qui me ressemble ?
La question se met à tourbillonner dans sa tête, jusqu'à ce que ça devienne aussi insupportable qu'un caillou dans un soulier. Pour tirer cette affaire au clair, Sigismond se rend à la bibliothèque la plus proche pour y faire des recherches. Il consulte des dictionnaires, des encyclopédies, des atlas, des livres qui pèsent terriblement à cause de ce que des savants ont tassé et entassé dedans.
Lapin, lièvre, âne, éléphant, rien d'autre à la rubrique grandes oreilles.
Après de longues heures passées à feuilleter des dizaines de pages sans succès, Sigismond tombe par hasard sur un livre ancien et poussiéreux. Il est intitulé Voyage au pays des hommes sauvages. L'auteur raconte qu'il a découvert une lointaine contrée où les habitants ont des oreilles qui pendent jusqu'aux genoux. Un large sourire se dessine sur le visage de Sigismond.
Il y aurait donc des gens pour qui ce serait pire que pour moi ?
Mais l'auteur ajoute tout de suite après que ses habitants possèdent également un seul pied qui leur sert de parasol, ainsi qu'une bouche tordue au beau milieu de la poitrine. Sigismond referme le livre avec un haussement d'épaule.
Celui qui a écrit ça ne peut être que le roi des menteurs.
Heureusement, avoir de grandes oreilles n'a pas que des inconvénients. Sigismond entend ce que personne d'autre que lui ne pourrait même soupçonner. Qui connaît le bruit que fait ?
Une feuille morte quand elle tombe par terre.
Qui perçoit distinctement ?
Le battement d'ailes d'un papillon qui traverse le pré.
Qui a jamais entendu ?
Le froissement des pétales d'une rose lorsqu'elle s'ouvre.
Personne d'autre que Sigismond. C'est pour cela qu'il aime s'asseoir au milieu de la nature. Autour de lui,
ça craque et ça crie sans miniature. Ça grince et ça bruisse sans minuscule.
Il appelle ça le chant qui monte du monde.
Le vent lui souffle des secrets à l'oreille. Les arbres frissonnent en lui racontant des histoires qui font un peu peur. Les herbes sèches lui chuchote des confidences tout en se balançant. Le ruisseau lui murmure des souvenirs qui remontent à la source.
Un vrai concert, une symphonie que n'entend que Sigismond. Une nuit d'hiver, il s'est brusquement redressé sur son lit.
Des flocons de neige en tombant sur le toit venaient de le réveiller en sursaut.
On croit que le silence règne sur la ville quand tout le monde dort. C'est faux. C'est le moment que choisissent les petites bêtes pour faire du tapage nocturne aux oreilles de Sigismond. Ici, c'est
un souriceau qui lisse ses moustaches dans un coin du grenier. Là, une araignée tisse sa toile au plafond. Ailleurs, un ver ronge le bois d'un vieux meuble. D'or, un chat se glisse sur la gouttière du toit en faisant pattes de velours.
Il y a cependant une chose que Sigismond n'aimerait jamais avoir entendue. Le bruit que fait en secret le chagrin.
Les sanglots qu'on essaie de retenir. Les mots qui restent coincés en travers de la gorge. Les cris qu'on garde en dedans et qui vous étouffent.
Rien de cela ne lui échappe. Cette nuit, précisément, à l'étage du dessous, ses parents se querellent une fois de plus. Ils le font à voix très basse, mais en parlant tous les deux en même temps, sans s'écouter, comme s'ils s'étaient bouché les tympans avec les mains. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on dit, de deux personnes qui se disputent tout le temps, qu'elles ne s'entendent pas bien ?
Sigismond s'est réfugié au fond de son lit pour ne pas penser aux mots que ses parents se jettent à la figure, même si c'est en chuchotant. Il préfère se souvenir du chant qui monte du monde. Il se demande quelle sorte de musique fait la terre en tournant sur elle-même. Sigismond imagine que ses oreilles glissent dans son dos et se transforment en ailes, des ailes immenses et majestueuses.
Il peut voler très haut maintenant.
Par-dessus les villes, par-dessus les champs. Tout semble si petit quand on prend de la hauteur. Sigismond suit le cours des rivières, puis des fleuves, et il rejoint enfin l'océan. Il plane au-dessus des vagues qui courent comme les doigts d'un musicien sur les cordes d'une harpe.
Les oiseaux de mer lancent des notes de flûte, de hautbois, de clarinette ou de basson. Tout en bas résonne la corne de brume d'un navire, tandis que la brise marine siffle en faisant sa gamme.
Sigismond tourne encore plus haut, soudain.
Coup de cymbale, roulement de tambour.
puis plus rien. Le silence. L'horizon s'illumine de mille éclairs et la terre devient une boule bleue qui flotte dans un ciel noir tout piqueté d'étoiles. Sigismond tend l'oreille.
Un son étrange, une sorte de chuchotis qui viendrait de très loin, un bruit de fond à peine perceptible.
Même pour quelqu'un comme lui. C'est la première fois que Sigismond entend
la musique que font les astres dans l'univers. Quel beau son et lumière!
Mais au matin, quand il se réveille dans son lit, il a envie de pleurer. Ses grandes oreilles ont retrouvé leur place de chaque côté de son visage.
Quand ils se rendent à l'école, les frères et sœurs de Sigismond préfèrent garder prudemment leur distance avec lui. Ils s'en méfient. Comment faire confiance à quelqu'un qui peut tout entendre, même le plus petit des secrets qu'on partage entre soi?
On ne peut jamais être sûr que Sigismond ne va pas tout répéter aux parents.
Chaque jour, il fait donc seul le trajet de l'école, tandis que ses sœurs et frères marchent loin devant lui. Les mots qu'il voudrait leur dire à ce moment-là, il est obligé de les tenir enfermés. Ils lui restent sur le cœur. Ils finissent par s'y bousculer, comme un troupeau en pleine débandade. Certains de ces mots sont petits, gentils, doux, mais il y en a également des gros, des durs et d'autres qui sont aussi tranchants que la lame d'un couteau.
Impossible de les surveiller tous.
Évidemment, certains parviennent à s'échapper. Sigismond se met alors à leur courir après au beau milieu de la rue. Mais quand un mot est lâché, est-ce qu'on peut le rattraper? Sigismond se conduit de façon de plus en plus bizarre. Ses frères et ses sœurs commencent à le prendre pour un fou. Par chance, voilà qu'un beau jour, Sigismond rencontre Marthe, une nouvelle petite voisine. Aussi se rend seule à l'école. Elle ne connaît encore personne dans le quartier. Et les enfants qui y habitent n'ont pas envie d'aller avec elle, puisqu'ils ne la connaissent pas. Ce jour-là, c'est donc elle qui fait le premier pas et demande à Sigismond s'il veut bien aller son chemin en sa compagnie.
Marcher à deux, c'est beaucoup mieux.
Le cœur de Sigismond se met à battre si fort dans sa poitrine qu'il a peur qu'elle puisse l'entendre. Mais non, il n'y a aucun risque. Marthe a des oreilles normales, enfin, pas vraiment.
Elles sont bien plus mignonnes que toutes celles que j'ai jamais vues.
Depuis qu'il a rencontré, Sigismond ne s'est plus rendu à l'école sans Marthe. Pas une seule fois pendant tous ses trajets, elle ne lui a parlé de ses oreilles. C'est vrai qu'ils ont toujours mille choses à se raconter, mais Sigismond est rongé par le doute.
Peut-être qu'elle trouve mes oreilles affreuses, atroces, mais qu'elle n'ose pas me le dire. Peut-être qu'elle s'en moque dès que j'ai le dos tourné. Peut-être que...
Le doute, c'est comme un bouton qui vous démange. Vous finissez par vous gratter, même si ça ne peut qu'empirer. Sigismond ne parvient pas à résister. Il faut absolument qu'il pose la terrible question.
Mes oreilles, tu les trouves comment ?
Marthe les examine attentivement, comme si elle ne les avait jamais remarquées auparavant.
Elles me font penser à des grands coquillages, ceux dans lesquels on entend la mer.
Sur ces mots, elle s'approche de lui comme si elle voulait écouter le bruit des vagues à l'intérieur d'une des oreilles de Sigismond. Mais, au lieu de cela, elle dépose un baiser sur sa joue. Et ça fait le petit bruit le plus doux qui puisse exister. Ils se remettent aussitôt en route, sans prononcer une parole. Ils n'en ont pas besoin pour savoir ce qu'ils pensent l'un et l'autre.
Marcher à deux, c'est vraiment mieux.
Les années ont passé. Sigismond et Marthe ont grandi en continuant tranquillement leur chemin. Un seul et même chemin pour tous deux.
Marthe devenue une pianiste célèbre, ce qui fait le bonheur de Sigismond qui passe des heures à l'écouter quand elle répète un concerto. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, ils ont eu à leur tour des enfants, mais aucun d'entre eux n'a hérité des oreilles de Sigismond. Il en est heureux, un peu déçu peut-être aussi. Il lui faut se rendre à l'évidence. Personne d'autre que lui ne possédera jamais de pareilles feuilles de chou.
C'est désormais sans importance. On ne s'en moque plus. Sigismond est un monsieur bien comme il faut que tout le monde salue dans la rue. Il porte un beau costume sombre, une cravate à pois, des lunettes rondes et une barbe bien taillée. Ce qu'il fait ? Il est médecin. Un médecin d'un genre un peu spécial. Cet après-midi-là, une dame est entrée dans le cabinet de consultation où Sigismond reçoit ses patients. Elle tient par la main une fillette qui garde son visage baissé comme si elle ne voulait pas qu'on puisse le voir.
« Bonjour docteur, je viens pour ma fille. Je suis très inquiète. Elle ne mange plus, ne dort plus, ne rit plus. Et le pire, c'est qu'elle ne veut plus aller à l'école. Elle dit qu'on se moque d'elle. C'est à cause de son nez, je crois. »
La fillette est assise dans un fauteuil un peu trop grand pour elle. Elle ne dit rien. Ses jambes se balancent dans le vide et elle regarde ses chaussures comme si elle espérait qu'elles allaient soudain se mettre à marcher toute seule et la tirer de cet endroit-là.
« Hum, hum !»
Tout saute le docteur Sigismond pour attirer son attention. La fillette lève des yeux immenses et tristes. Sigismond lui sourit, il se cale au fond de son fauteuil, met la main sur son carnet et son crayon et dit d'une voix très douce, aussi douce que le chant qui monte du monde.
« Alors, ça ne va pas ? Raconte-moi tout. Prends ton temps. Je t'écoute. Je t'écoute très attentivement. Tu vois ? J'ouvre tout grand mes grandes oreilles. »
Sigismond Schlomo Freud est né en 1856 à Friedberg en Moravie. Il est l'aîné de 7 frères et sœurs. Sa famille très pauvre s'installe à Vienne en Autriche. Sigismond est un élève brillant. Il entame des études de médecine. À 22 ans, il change son prénom en Sigmund.
Devenu médecin, il invente la psychanalyse, une méthode où l'on écoute les gens pour les aider à aller mieux. On leur demande pour cela de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs rêves. Cette méthode sera connue dans le monde entier et le rendra célèbre.
Mais parce qu'il est juif, Sigmund Freud est obligé de quitter Vienne. Les nazis, qui veulent exterminer les juifs, menacent toute sa famille. Sigmund Freud trouve refuge à Londres en juin 1938. Il y meurt le 23 septembre 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Les oreilles de Sigismond, un texte de Patrice Favaro, interprété par les élèves de l'école Paul Lapide de Saint-Auban. Patrice Favaro, votre réaction par rapport à cette lecture radiophonique ?
Moi, je suis très 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 heureux du résultat, parce que c'est une sorte de boucle qui se termine, parce que en écrivant ceci, c'était l'idée de départ, c'était que tous nos grands hommes, nos grandes femmes, tous ceux qui ont un petit peu fait changer le monde, fait bouger les choses, ont un jour été un enfant ou des enfants. Et donc, que je me suis amusé à imaginer l'enfance de Sigmund Freud, et la voilà à son tour racontée par des enfants, et superbement aussi.
Et racontée. Pourquoi avoir choisi Sigmund Freud ? C'est un personnage particulier, c'est une méthode particulière, et puis c'est une période de notre histoire particulière.
Mais c'est d'abord le fait que, je crois que ce qui est essentiel pour notre vivre ensemble, c'est de savoir s'écouter. Et comme savoir écouter un texte, mais savoir écouter les autres aussi, savoir se faire entendre. Donc je pensais que c'était quelque chose qui, pour les enfants, était important à saisir, quoi. Que dans l'écoute de l'autre, la plupart des problèmes peuvent trouver leur résolution, quoi.
Et puis le respect de l'autre
aussi.
Et
le respect de l'autre va par cette écoute. Et je commence toujours mes interventions en leur demandant de me prêter attention. Alors ils sont un petit peu surpris parce que c'est une formule qu'ils connaissent pas vraiment. Ils sont habitués à ce qu'on leur dise « écoutez-moi ». Et je leur dis « prêtez-moi attention parce que moi je vais vous prêter ensuite, je vais vous rendre cette attention que vous m'avez prêtée ». C'est un échange.
Ce feeling particulier que vous avez avec les enfants, Patrice, c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis des années ?
Mais je viens de l'action culturelle, je viens de l'enseignement théâtral, je viens du spectacle jeunesse, je viens du théâtre itinérant. Donc oui, il y a forcément une sensibilité par rapport aux enfants. Et aussi, surtout, le fait de considérer qu'il n'y a pas forcément de barrière entre les publics et qu'on peut écrire pour les adultes, comme je le fais, pour les adolescents, mais pour les enfants aussi. Tout ça, c'est une même histoire, en fin de compte.
Et quiconque connaît l'histoire de Sigmund Freud écoutera avec grand intérêt les oreilles de Sigismond qu'on a diffusé et qu'on va rediffuser aussi une deuxième fois demain dans une autre interprétation d'une autre classe. Je vous propose d'écouter la deuxième lecture radiophonique. Il s'agit d'un autre de vos livres, Patrice, La fille du loup, interprétée par les élèves de 6e du collège Camille Raymond. Et on se retrouve aussi après pour parler de cette lecture.
Une épaisse, sombre forêt. Comme d'habitude, il regardait avec une extrême attention ce qui se passait plus bas dans la vallée. Au milieu d'une prairie, paissaient de belles et grasses brebis. Il aurait bien aimé s'en approcher, mais le berger et ses chiens veillaient sur le troupeau. Il savait ce qu'il lui en coûterait de se montrer. C'était un loup, un vieux loup, doté d'une gourmandise démesurée. Ce n'était pas là son seul défaut. Les loups libres et fiers qui arpentaient le pays ne le fréquentaient guère. Ils n'étaient pas dignes d'appartenir à leur corporation. C'était un loup, paresseux, affreusement paresseux. Jamais il n'avait couru après un chevreuil, un cerf, une biche. Jamais il n'avait poursuivi un chamois ou un mouflon sur les pentes escarpées des montagnes. Non, ce loup-là fuyait l'effort. Il préférait rester assis des journées entières à bonne distance du troupeau des brebis, se contentant de mettre la patte sur le jeune étourdi qui échappait de temps à autre à la surveillance du berger et s'égarait dans sa direction. Il les croquait alors sans avoir eu à mener la moindre chasse. Un déshonneur pour tout vrai loup qui se respecte.
À plusieurs reprises, par le passé, il s'était approché du troupeau, mais uniquement la nuit, quand le berger et ses chiens dormaient paisiblement dans leur chalet d'alpage, après avoir conduit les brebis à la bergerie. Travestissant sa voix, il avait essayé de convaincre celle-ci de soulever le loquet qui fermait la porte, en se faisant passer pour un mouton perdu venu d'un troupeau voisin. Il les avait suppliés de lui laisser passer la nuit en sécurité, à l'intérieur du bâtiment. Il savait se montrer persuasif, mais alors qu'il touchait presque au but, il avait poussé à chaque fois un long hurlement de joie carnassière.
Aouh !
Qui trahissait sa nature de loup et dévoilait trop tôt son stratagème.
J'ai encore fait un malheureux dérapage.
Avec l'âge, ses dents s'étaient émoussées, mais nullement son appétit. Ce jour-là, il salivait à la vue de belles brebis, tout en se lamentant d'avoir le ventre vide, quand une ombre furtive se glissa entre les arbres de la forêt. Le vieux loup ne broncha pas. Il n'y avait aucun danger. Son odorat lui disait depuis un moment déjà que sa fille s'en venait le rejoindre. C'était une louve, qui lui ressemblait autant par la gourmandise que par son coupable penchant par la paresse. Tous deux contemplèrent durant un long moment le troupeau en se léchant les babines.
« Ah, ma fille, quel beau rêve que s'imaginer lâcher dans leur bergerie. Un jour réussiras-tu peut-être là où j'ai toujours échoué ?»
Je ne sais comment m'y prendre, mon cher père, pour ne pas les effrayer. Notre allure, la couleur de notre poil, nos crocs acérés, nos hurlements lugubres, voilà ce qui nous trahit. Comment passer auprès de ces brebis pour ce que je ne suis pas ?
C'est cela qu'il te faudra découvrir.
La jeune louve se mit à réfléchir intensément. Elle était plus rusée que son père, et la faim dévorante qu'on connaît à cet âge la rendait plus redoutable encore.
Tout d'abord, je pourrais changer de pelage. Il me faut avoir une allure différente et cacher ma brune pelisse. Je pourrais m'habiller couleur de nuit pour passer inaperçu. Je serais assez tentée par un beau bleu marine.
Le vieux loup acquiesça. Bleu marine, ça va avec tout.
Pour les crocs, j'apprendrai à ne pas les montrer.
Parfait, mais comment feras-tu pour ne pas te mettre à hurler au dernier moment ? Comme nous le faisons, nous autres loups affamés.
Sa fille se mit à rire en claquant des dents. Elle ne parvenait pas encore à se maîtriser correctement.
Les hurlements, ce sera ton registre, mon cher père. Tandis que ta voix si monstrueuse résonnera dans la nuit, la mienne paraîtra, par comparaison, beaucoup plus douce aux brebis. Fais-moi confiance, je saurai me tenir. Avec moi, il n'y aura pas de dérapage.
Le vieux loup éprouva une bouffée de fierté. Quel talent sa fille montrait ! C'était bien son sang qui coulait dans ses veines.
Place aux jeunes ! Ce soir, c'est mon tour. Je vais tenter ma chance à la bergerie.
C'était une belle nuit, avec une lune ronde et rousse qui baignait de sa douce lumière des abords de la bergerie. La louve s'approcha sans bruit. Elle portait une pelisse bleu marine qui rendait sa silhouette difficilement visible. Son camouflage ne s'arrêtait pas là. Elle avait eu l'audacieuse idée de blanchir le poil brun qui dépassait malgré tout de son habit. Elle avait enduit sa gueule, ses oreilles pointues, sa longue queue et le bout de ses pattes griffues avec de la craie blanche trouvée dans une carrière abandonnée des environs. La louve prêta l'oreille en direction du chalet d'alpage, où le berger dormait avec ses chiens. Tout y était silencieux. Elle entreprit alors de frapper discrètement à la porte de la bergerie. Une voix ensommeillée bêla.
« Qui est là ? » ?»«
Quelqu'un comme vous ?»
Une seconde brebis répliqua.
« Passez votre chemin, à cette heure de la nuit. Qui cela pourrait-il être d'autre qu'un vieux loup dégoûtant ? Nous connaissons la chanson. »
« Vous n'y êtes pas du tout. Je ne suis pas celle que vous imaginez. D'ailleurs, écoutez le loup. On l'entend hurler là-bas dans le lointain. »
Les brebis prêtèrent l'oreille. Elles entendirent, en direction de la forêt, les cris glaçants d'un loup qu'elles ne connaissaient que trop.
Qui êtes-vous, alors ?
Une amie qui vous veut du bien. Regardez par un trou de la porte afin de vous assurer que je suis bien pareil à vous.
Les brebis se pressèrent en grand désordre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Elles virent une créature qui leur ressemblait somme toute assez. Quatre pattes, une paire d'oreilles, une queue, rien que du poil clair et pas le moindre croc en vue. De plus, l'inconnue était plutôt élégante et elle souriait aimablement.
« Je suis là pour vous aider à vous échapper. Soulevez donc le loquet qui vous enferme à l'intérieur et je vous conduirai vers la liberté. »«
Mais nous ne sommes pas prisonnières !»«
Ah non ? Et ces clôtures dans la prairie ? Et cette bergerie où l'on vous conduit pour la nuit ?»«
C'est pour nous protéger du loup. Notre berger veille sur nous comme sur ses propres enfants. »«
Ses propres enfants ? Pauvre naïve. Croyez-vous qu'il vous protège sans profiter de vous ? Que vous êtes donc sotte. Il vous exploite honteusement. Il vous tond la laine sur le dos, vous soutire votre lait, et au moindre écart, il lance ses chiens sur vous. N'est-ce pas vrai ?
Tout cela n'est pas faux !
Et vos agneaux, ne les voyez-vous pas disparaître mystérieusement les uns après les autres ? Qui d'autre que le berger les soustrait à votre affection de mère ?
Tout cela n'est pas faux !
Ouvrez donc, n'ayez pas peur. La liberté vous attend. Je vous conduirai vers des contrées qui ne connaissent ni loup, ni berger. Faites-moi confiance et je serai votre guide.
À l'intérieur de la bergerie, les discussions allaient bon train. Nombre de brebis étaient excitées à l'idée de pouvoir librement gambader dans la nuit. D'autres, celles que la prudence conduisait, affirmaient qu'il ne faut jamais croire aux belles promesses. Le temps passait, et aucune des deux opinions ne l'emportait. C'est alors que la louve en bleu marine eut une idée de génie.
« Vous n'avez qu'à voter. L'avis des plus nombreuses triomphera, les autres s'y soumettront. »
Les brebis trouvèrent l'idée excellente. Elles votèrent en levant la patte, mais comme certaines en soulevèrent deux à la fois pour tricher, cela compliqua quelque peu le comptage. Au final, cependant, aucune majorité distincte ne se dégagea. Il y avait autant de voix pour que de voix contre. L'aube n'allait pas tarder à se lever, et le berger à se réveiller. La louve, dont le ventre criait plus que jamais famine, n'avait pas une minute à perdre pour arriver à ses fins.
« Vous avez toutes voté ?»
Les brebis s'étonnèrent.
« Oui, pourquoi ?»«
Même celles d'entre vous qui ont le poil noir ?»«
Naturellement !»«
Alors ça ne compte pas. Il faut recommencer. Une brebis, c'est blanc. Un poil, je veux dire un point, c'est tout. »
L'une d'entre elles, qui se sentait directement mise en cause, expliqua.
« Mais il y en a toujours quelques-unes de noires dans le troupeau. C'est inscrit dans les lois de la nature. »
La louve tenait sa réponse toute prête. Elle salivait déjà. La porte allait s'ouvrir. Elle en était sûre.
Dans la nature ? Qui d'autre a le poil brun, justement ? Je vous le demande un peu. Qui d'autre a parlé loup eux-mêmes ?
Une immense clameur résonna dans la bergerie. Chaque brebis tentait de faire entendre son point de vue sur la question. Les unes proclamaient
« Qu'importe la couleur, nous sommes toutes sœurs. »
Tandis que d'autres bêlaient avec indignation.
« Pas de poils bruns chez nous ! Dehors les étrangères ! Dehors les traîtresses !»
La situation s'envenima et l'on ne tarda pas à en venir au coup de sabot. C'est alors qu'une des brebis, affolée par la tournure que prenaient les éléments, s'écria
« Il nous faut quelqu'un qui soit capable de mettre un peu d'ordre dans tout ça !»
Elle décida d'ouvrir la porte à la nouvelle venue, puisqu'elle s'était proposée comme guide. Avec elle, le troupeau allait peut-être enfin filer droit.
À l'instant même où l'inconsciente brebis allait soulever le loquet et permettre ainsi à la louve d'entrer, il s'en trouva une autre, plus avisée, pour l'arrêter dans son geste et ramener ses sœurs à la raison.
Comment pouvez-vous être aussi ignorante ? Ne comprenez-vous pas qu'il s'agit de nous diviser pour mieux nous mettre la patte dessus ? Vous imaginez que quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui nous charme par sa seule bonne mine, qui nous chante un beau discours, puisse venir ainsi au milieu de la nuit, sans vouloir se payer sur notre dos. Et quand je dis notre dos, je devrais plutôt parler de notre viande et de nos os. Il y a du loup là-dessous.
L'assemblée de brebis frissonna à ces mots. Celle qui était dotée de sagesse continua.
Cependant, voyez-vous, sa proposition m'a donné à penser.
Approchez, approchez, venez tout près. Il faut que rien ne filtre de ce que j'ai à vous dire.
Dehors, la louve s'impatientait. De la bergerie ne montaient plus que des chuchotements qui lui demeuraient incompréhensibles. Enfin, à sa grande joie, elle entendit qu'on tirait le loquet de la porte. Elle allait pouvoir bondir aussitôt à l'intérieur, toute dent d'or, et il n'en fut rien. Renversée par un raz de marée de brebis innombrables, qui la piétinèrent avec une furieuse énergie, la louve ne dut son salut qu'à une fuite éperdue. Emportée par leur élan, les brebis traversèrent la prairie comme une tornade, en direction de la forêt. Le vieux loup, les yeux encore écarquillés de plaisir, en voyant tout le troupeau arriver vers lui, ne pensa pas à faire comme sa fille. Pas même quand il comprit que 1000 sabots effilés s'apprêtaient à le fouler. Sa gourmandise lui fut fatale.
Cela fait, les brebis retrouvèrent leur calme. Elles tinrent conseil au beau milieu de la prairie, éclairée par la lune. À quoi bon retourner dans la bergerie ? Elle savait désormais ce qu'il convient de faire avec les loups. Nul besoin d'un berger et de ses chiens pour s'en protéger. Une brebis qui avait le sens de la formule lança.
C'est l'union qui fait notre force. Unis, nous sommes invincibles.
Vive la liberté, les prés sont à nous.
Elles se mirent en route pour gagner joyeusement les verts pâturages de leur choix. Jamais plus, elles ne se laisseraient tondre.
Quant à la fille du loup, la leçon fut si cuisante qu'elle quitta définitivement la région pour de très lointaines contrées, là où les brebis se conduisent toujours, hélas, comme de vulgaires moutons. Des voyageurs qui sont passés par là prétendent qu'elle a définitivement renoncé à s'habiller en bleu. Après avoir connu une si terrible peur face à des brebis déchaînées, une peur bleue en vérité, elle a désormais cette couleur en horreur. C'est pourquoi son pelage a retrouvé celle qu'il avait à l'origine. Une couleur qui ne trompe personne. La brune.
Retour en plateau, c'était La fille du loup, interprétée par les élèves du collège Camille Raymond à Château-Arnoux-Saint-Auban. Patrice Favaro, c'est un conte philosophique pratiquement cette histoire.
Je crois que tous les contes sont philosophiques parce que c'est quand même des histoires qui aident toujours à grandir. Celle-là, elle a ceci de particulier qu'elle est basée sur la fable des chevreaux avec le loup qui veut rentrer dans la bergerie. Mais effectivement, elle parle d'abord de la responsabilité de chacun, puis elle parle aussi de l'égalité des uns et des autres.
Avec des mots forts du genre les brebis qui se conduisent comme de vulgaires moutons.
Ah oui. À ne pas confondre les uns et les autres.
Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez habité dans les Hautes-Alpes d'ailleurs. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez une sensibilité particulière par rapport à la question du loup ?
Non, je ne pense pas. Non, non. Quand on habite les Hautes-Alpes, la question du loup, il vaut mieux la laisser à ceux qui s'en préoccupent de façon directe et ne pas trop s'en mêler, parce que c'est quand même un sujet excessivement sensible. Et quand on n'est pas concerné, à la fois professionnellement, écologiquement, etc., quand on ne connaît pas bien le sujet, il faut avoir un avis un petit peu... Non, non, là, c'était vraiment... Non, là, il s'agit de loups qui ont figure humaine.
Oui, alors justement, ils ont figure humaine. Et puis, on évoque aussi la représentativité avec des brebis qui doivent voter, qui s'expriment. Et puis, ça compte pas, etc., etc. C'est un petit peu une satire de notre société.
Oui, c'est une histoire qui peut se lire à deux niveaux. Et c'est ça qui est amusant, comme dans toutes les fables, comme dans beaucoup de contes. On peut décoder aussi, on peut s'amuser un petit peu à jouer sur les références. Voilà, c'est un jeu que pratiquait La Fontaine et que pratiquaient d'autres. Et donc, ça reste quelque chose d'extrêmement amusant aussi aujourd'hui, quoi.
Patrice Favaro, votre sentiment sur le résultat final, c'est-à-dire l'enregistrement et le montage qu'a réalisé notre collègue Mario Poncelet ?
Mais c'est un sentiment de grande satisfaction et puis aussi de grand plaisir, parce que ce fut un plaisir très, très amical aussi, dans une ambiance très chaleureuse. Les enseignants ont été formidables, parce que ça leur a demandé un travail fort, une implication très forte. Les enfants ont été surprenants, hein, on a pu l'entendre à cette écoute là, hein, je veux dire, c'est des choses qui se sont faites aussi rapidement, hein, on a fait simplement 3 séances. Et puis Mario, comme vous-même, François, vous avez été d'un professionnalisme sans faille, et donc moi je n'ai qu'une ambition, c'est que ça se reproduise.
Ouais, moi aussi, ça me plairait bien. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, il y a eu 2 temps forts aussi importants, des réunions collectives à l'initiative de Katia Veillant et de Suzelle Badet à la médiathèque, où on a vu toute cette belle jeunesse venir rencontrer un auteur, venir rencontrer des professionnels de radio et avec leurs enseignants. Ça a été un moment fort aussi où ils se sont rencontrés, puisqu'ils habitent des villages voisins, des communes voisines. On a créé vraiment un mouvement collectif là.
Oui, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce projet, puisque les enfants ont déjà écouté une première, ils ont eu droit à une primeur, écoute, et de les voir tous réunis, c'était vraiment un excellent moment. Et puis c'était aussi, je veux dire, dans cette notion de territoire, puisqu'ils appartiennent tous au même territoire, c'était aussi le moyen d'effectuer des traits d'union, des vecteurs entre les uns et les autres.
Patrice, vous l'avez dit, c'est un travail remarquable des enseignants aussi, des enseignants qui ont su faire preuve de curiosité et en même temps de pédagogie et beaucoup de professionnalisme.
Oui, parce qu'il a fallu effectivement d'abord faire des lectures approfondies du texte, de façon à ce que les premiers travaux que nous avons faits de diction, de mise en voix, puissent se faire sur un terrain favorable. Et puis il a fallu aussi aider les enfants, les rassurer. Leur inquiétude face à un micro était toujours grande, donc il y a eu tout cet investissement-là. Et puis je crois aussi qu'il y a un aspect très profondément pédagogique, c'est que le fait de lire à voix haute, de lire pour soi, mais aussi pour et avant tout pour les autres, c'est une manière vraiment profonde et en même temps extrêmement enthousiasmante d'entrer dans un texte et d'en avoir sa compréhension. Je terminerai juste avec une anecdote. Quand vous avez un enfant qui vous dit « Est-ce que je peux placer là une respiration, monsieur, mais vous n'avez pas mis de virgule à cet endroit, mais est-ce que je peux le faire ?» On se dit « C'est bon, on a gagné. »
Et c'est une belle chose, et en même temps, si on respire pas en lisant, alors là, c'est une catastrophe, il faut éviter. Patrice, ça a été un plaisir aussi de travailler avec vous, et de monter cette belle opération. Demain, on va écouter deux autres textes que, évidemment, vous connaissez. C'est aussi une diversité au niveau du territoire, avec, on l'a dit, Mario, qui a fourni aussi quelques illustrations musicales, et qui a assuré le montage avec vous-même aussi. Vous êtes venu ici à Manosque plusieurs fois, pour assurer ces montages radiophoniques. Il y a une ouverture et en même temps, il y a un résultat qui est un résultat final de grande qualité quand même.
À la fois de grande qualité et je trouve aussi de grande fraîcheur, parce que je crois que l'objectif aussi c'était de pas faire non plus un produit, mais de garder aussi l'aspect spontané et puis la fraîcheur qu'on les voit des enfants. Et en même temps aussi, ces deux émissions qui se succèdent vont permettre de faire non pas un comparatif, mais de comprendre qu'il y a forcément dans toute lecture une interprétation qui intervient, et ça je crois que c'est quand même la richesse de cette lecture-là, quoi.
Et puis après la lecture, il y a l'écoute, évidemment. Oui. Et c'est là où on a apporté notre grain de sel et on en a été ravis. Merci encore, Patrice, d'avoir été mon invité. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, je le dis. Et puis demain, on écoutera encore La fille du loup, ce sera interprété par les élèves de l'école de Perruy. Et Les oreilles de Sigismond, ce sera l'école de l'Escale aussi, qui a toutes les écoles et tous les écoliers et collégiens ont réalisé un travail magnifique que l'on retrouvera bien sûr sur notre site internet sans aucun problème. À bientôt, Patrice, pour d'autres aventures.
Je l'espère.
Des projets d'ailleurs en ce moment d'écriture, non?
Un livre qui vient de sortir.
Pour les enfants, il y a deux jours.
Non, pour les adultes cette fois. C'est sur qui s'appelle tout simplement Kera. C'est un hommage et une promenade au territoire qui est le plus cher à mon cœur, celui des montagnes dans lequel j'ai eu la chance de passer une dizaine d'années, les montagnes Kéracine.
Dans les Hautes-Alpes, et on en reparlera certainement avec vous, si vous le souhaitez, sur notre antenne. Merci beaucoup, Evan, pour cette émission, la régie de cette émission très particulière, et évidemment, la saison 2, c'est demain, sur notre antenne. À bientôt.
Merci François, on se retrouve demain. Au revoir.